Ainsi, l'écriture et la tradition sont-elles les sources qui nous donnent accès à la révélation. Mais sur ce donné révélé, l'intelligence de l'homme s'exerce selon le mode propre qui est le sien et qui est rationnel et discursif. Il ne s'agit pas d'une activité rationnelle s'exerçant sur le donné de la foi, mais de la lumière de la foi qui informe et utilise la raison. Cette recherche est l'objet de la théologie qui est, selon le mot de saint Anselme, « fides querens intellectum », la foi qui cherche à comprendre son objet. Ceci nous introduit à un nouvel ordre de questions qui concerne la réflexion de l'intelligence humaine, éclairée par la révélation, vivifiée par la grâce, pour approfondir le donné révélé. L'utilité de la théologie a été souvent contestée au cours de l'histoire du christianisme, et elle l'est encore aujourd'hui. Pourquoi, dira-t-on d'abord, ne pas s'en tenir scrupuleusement à la révélation telle qu'elle nous est proposée par la Bible et la tradition? Ne risque-t-on pas de substituer des spéculations humaines à la parole de Dieu en voulant raisonner sur elle? D'ailleurs, ajoutera-t-on, la forme sous laquelle la Bible et la tradition proposent la révélation comme une annonce du salut et de ses moyens n'est-elle pas la vraie forme sous laquelle doivent être présentées les vérités de la foi? Elle constitue la théologie kérigmatique, et cette théologie est la seule valable. Par ailleurs, en voulant trop systématiser les vérités révélées, ne risque-t-on pas de les appauvrir, de réduire à des définitions et à des déductions la plénitude vivante de la parole de Dieu? Cet intellectualisme de la théologie ne risque-t-il pas de détourner les hommes qui cherchent un Dieu sensible au cœur, une expérience religieuse? Ne risque-t-elle pas même d'évacuer le mystère lui-même et de lui substituer un système rationnel? Ces critiques ne sont pas sans valeur, et l'histoire de la théologie montre qu'elle n'est pas sans les avoir méritées. Il est vrai, en effet, que la théologie ne saurait rien ajouter au dépôt de la tradition et de l'écriture, puisque la révélation est achevée avec les temps apostoliques. Il faut dire aussi que la forme normale de la présentation du message chrétien est la prédication de la parole, le kérigme, et que c'est une erreur de lui substituer des discussions théologiques. Il faut reconnaître que la plénitude de la révélation telle que la contiennent l'Écriture et la tradition déborde toute théologie, et que celle-ci en est un inventaire toujours inachevé. Il est vrai également que la théologie est insuffisante si elle ne s'achève en mystique, c'est-à-dire dans la rencontre vivante avec le Dieu vivant. Et enfin, il est vrai que les théologies ont péché parfois par rationalisme. Le plus illustre exemple en est le plus ancien et l'un des plus grands théologiens, Origène, dont on discute encore pour savoir si son système est philosophique ou théologique, si les principes premiers en sont empruntés à la révélation ou à la raison. Il peut y avoir des abus de la théologie. Il importe donc de la situer à sa place, dans ces voies de la connaissance de Dieu que nous étudions dans ce livre, pour chercher à la fois à montrer sa valeur et ses limites, et d'abord sa valeur. Nous avons dit que la révélation, telle que nous la présentait l'Écriture et la tradition, porte essentiellement sur des faits. Nous y voyons Dieu dans des situations concrètes, faisant alliance, jugeant, libérant. Nous y voyons, dans le Nouveau Testament, le Christ se comporter en Dieu, l'Esprit opérer des miracles. Mais ces faits peuvent être d'abord mal interprétés. Et l'histoire du christianisme le montre à l'évidence. Il n'est que de voir les tâtonnements des premiers écrivains chrétiens lorsqu'ils parlent de la Trinité, leurs hésitations sur la manière correcte d'exprimer la relation du Verbe et du Père. Il faudra 4 siècles pour arriver avec Nicée à une formulation exacte du dogme trinitaire. Vouloir en particulier s'en tenir ainsi à la pure lettre de la Bible, vouloir supprimer les précisions de la théologie, c'est s'exposer à retomber dans des confusions et les tâtonnements. Et l'expérience de ces retours à la Bible pure le montre bien. Certes, dans le luthérianisme, il y avait une soif légitime d'un contact direct avec la parole de Dieu, au-delà de l'énorme masse de la théologie médiévale et des discussions stériles de la scolastique décadente. Mais en écartant la théologie, on écartait du même coup les progrès de la tradition dogmatique. En faisant de l'écriture seule la source de la vérité, on s'exposait à tous les errements qui ont suivi, car chacun interprétait l'écriture à sa façon. Aussi bien, nous l'avons dit, Est-ce à l'Église que le Christ a confié son message? C'est elle qui a autorité pour interpréter la révélation, et c'est ce qu'elle fait dans les définitions dogmatiques. Mais ces définitions supposent tout le travail de la théologie. Certes, le contact avec la Bible et la tradition est toujours nécessaire, et rien n'est dangereux comme de lui substituer une systématisation théologique. Elles sont le donné régulateur auquel le théologien doit toujours se référer sous peine de constructions arbitraires. Quand elles s'en délestent, la théologie perd contact avec la réalité même qui est son objet et se dissipe dans les nuées de la spéculation. Mais ceci ne signifie pas que la théologie ne soit aussi nécessaire. Car c'est le travail de l'intelligence qui, en rapprochant les données révélées les unes des autres, en marquant leurs liaisons et en précisant leurs conséquences, empêche la révélation de rester à l'état confus et brut, en élucide des données et en permet ainsi une meilleure intelligence. D'ailleurs, la Bible et la tradition n'existent pas à l'état pur. Dès qu'on les commente, on les interprète et donc on fait de la théologie. Et le mépris de la théologie fera seulement faire de la mauvaise théologie. Mais, dira-t-on, le problème n'est pas ici le problème théorique de la théologie comme telle, c'est un problème de fait. Est-ce que la révélation, quand elle a été interprétée par les théologiens, n'a pas été déformée? Ils ont en effet emprunté, pour l'exprimer, des catégories philosophiques, qui étaient celles de Platon et d'Aristote. En interprétant la parole de Dieu à travers ces catégories, n'en ont-ils pas fait une gnose? La théologie d'Origène n'est-elle pas un platonisme chrétien, plus qu'une théologie proprement dite? L'usage des catégories aristotéliciennes par saint Thomas n'a-t-il pas déformé la révélation en substituant les catégories de matière et de forme, d'acte et de puissance, aux catégories bibliques de Béris et d'Emet, de Tzedek et de Hésed? Ne faut-il pas nous libérer de ces catégories et revenir à celles de la Bible? Nous avons montré tout au long du chapitre précédent le bien fondé de cette remarque. Il est certain qu'en employant le mot « logos » pour traduire le « dabar » biblique, saint Jean exposait la théologie chrétienne à de grandes difficultés. Car le « logos » connotait dans la philosophie grecque un certain nombre d'aspects, rationalistes, panthéistes, dont il était difficile qu'il se dépouillât du premier coup. D'où les nombreuses erreurs des premiers théologiens en ce domaine. On ferait des remarques analogues à propos de la traduction de Roua par Pneuma ou de Tzedek par Justitia. Ceci d'ailleurs ne concerne pas encore le problème de la théologie, mais celui du passage de la révélation d'un registre linguistique dans un autre. Or, c'est une opération extrêmement délicate et dangereuse. Et aujourd'hui encore, nous l'avons vu, que de confusion ne provoque-t-elle pas? Mais d'abord, si ce passage est délicat, il ne signifie pas pour autant qu'il soit déformant. En effet, ne s'emparant des expressions de la philosophie pour formuler les réalités de la révélation, la théologie les charge d'un contenu nouveau. Et c'est là qu'apparaît premièrement la nécessité de la théologie. La traduction de l'hébreu en grec était nécessaire, dès lors que l'évangile était prêché à tous les peuples. Cette traduction risquait d'entraîner des confusions. C'est pourquoi l'élaboration des catégories théologiques nouvelles était nécessaire. Et c'est bien en fait ce qui s'est produit. Après quelques siècles, la théologie s'est trouvée en présence de notions neuves. Personne, substance, nature, emprunté matériellement à la langue grecque, mais ayant pris un sens propre et qui lui ont permis une formulation en grec de la révélation. Et ceci nous amène à remarquer qu'il y a chez ceux qui voudraient s'en tenir aux catégories bibliques une confusion. En effet, par catégorie biblique, on peut entendre deux choses. D'une part, ce sont les contenus intelligibles eux-mêmes par lesquels s'exprime la révélation, et de l'autre, c'est la forme sémitique qu'ils ont prise dans la Bible. Or, il faut dire que ce second aspect est secondaire. L'hébreu ne fait pas partie de la révélation. Celle-ci transcende toute culture particulière et doit s'exprimer dans toutes les langues du monde. Et ceci n'est pas une déformation, mais un enrichissement. Car en s'exprimant ainsi dans des cultures différentes, l'unique vérité de la révélation met en relief des aspects divers. nous en conclurons, sur le plan théologique, que loin donc de contester la légitimité de l'expression de la révélation avec les catégories de la philosophie grecque, qui a été l'œuvre des théologiens, il faut dire que ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est qu'un travail analogue se fasse pour l'Inde ou la Chine. Par ailleurs, la théologie permettra de dégager le vrai sens de la révélation de ces interprétations erronées. L'histoire montre qu'elle est née en grande partie de la réalité de l'hérésie. Les premiers théologiens, Irénée ou Tertullien, ont écrit pour réfuter les erreurs des gnostiques et pour montrer qu'ils interprétaient faussement l'Écriture. Les grands théologiens trinitaires du IVe siècle, Athanase, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, ont réfuté les erreurs d'Arius et d'Eunomius sur la Trinité. L'œuvre de saint Augustin est en grande partie une réfutation du pélagianisme. Les théologiens du XVIe siècle élaborent une théologie de la grâce et de la liberté en face des erreurs protestantes. La théologie prépare ainsi les voies au magistère de l'Église, qui seul a autorité en dernier ressort pour définir la foi en vertu de l'assistance de l'Esprit-Saint. Mais cet aspect négatif n'est pas l'essentiel. L'objet des grands théologiens est de dégager ce qui est impliqué par le donné révélé. Celui-ci, nous l'avons dit, se présente comme un témoignage donné à des actions divines. La théologie aura pour objet de montrer ce que ces événements manifestent de Dieu. Ainsi la Bible nous montre Dieu punissant Israël adultère et manifestant sa jalousie. C'est une situation concrète, chargée de signification. La théologie montrera que ceci est l'expression du monothéisme, de l'appartenance exclusive de la divinité au Dieu unique et transcendant. De même, la Bible nous montre le Christ affirmant qu'il est plus grand que le sabbat, puisque Dieu seul peut modifier le sabbat qui est institué par Dieu. La théologie montrera que ceci implique sa divinité. Ces caractères du Dieu vivant qu'elle dégage, la théologie devra ensuite en préciser le sens, car ils sont souvent ambigus. Ainsi, il ne suffit pas de montrer que le Christ est Dieu, et donc qu'il y a en Dieu un autre que le Père. Il faudra montrer en quoi consiste cette distinction, car elle peut être comprise de façon excessive, dans le sens d'une dualité de Dieu, qui réintégrerait un polythéisme. Et c'est ce qu'une ignorance de la théologie fait dire parfois à des non-chrétiens. Mais elle peut aussi pécher par défaut en ne voyant dans le Verbe qu'une puissance de Dieu ou un mode de son être. C'est pourquoi la théologie sera amenée à préciser que le Verbe est une personne, c'est-à-dire possède une subsistance distincte de celle du Père, mais pourtant qu'il n'y a qu'une nature divine possédée indissociablement par le Père et le Fils. Il est clair que dans cet effort pour comprendre le mystère de Dieu, la théologie reste l'œuvre d'une intelligence humaine. Si cette intelligence connaît réellement Dieu dans la manifestation qu'il lui fait de lui, elle le connaît avec ses limites. C'est pourquoi elle n'est pas un rationalisme. Elle n'explique pas le mystère de Dieu au sens où elle le rendrait totalement intelligible. Elle connaît le mystère comme mystère. Mais elle l'énonce de façon exacte. Ainsi, la théologie n'explique pas comment il est possible qu'il y ait en Dieu trois personnes. Ceci reste un mystère insondable, où le regard même des anges ne peut plonger. Mais elle affirme qu'il y a en Dieu trois personnes, et elle dépasse ainsi ce que peut connaître la raison. Enfin, ces données qu'elle éclaire à partir de l'Écriture et de la tradition, la théologie en montre l'ordonnance et les liaisons. Le savoir chrétien est fait de ces correspondances entre les différents domaines de la foi. Il n'est pas une explication et une justification de la révélation par autre chose que la révélation. La parole de Dieu est son point de départ unique et exclusif. Mais il est l'inventaire des richesses de la parole de Dieu. Il dégage ainsi l'unité du plan divin. Et c'est cette unité même qui est à elle-même sa propre justification. Car il y a dans la convergence de toutes les données et dans leur liaison une évidence propre qui se dégage. C'est la totalité de la révélation qui prouve le détail de la révélation. Et c'est l'œuvre de la théologie de montrer cette totalité. Ainsi nous apparaît la liaison de la théologie et du donné révélé. La théologie est simplement la connaissance de l'Écriture et de la tradition. Elle ne doit pas être séparée d'elle. C'est à la parole de Dieu que le théologien doit toujours revenir, mais en même temps, la parole de Dieu s'éclaire par la théologie. Ses obscurités se dissipent, ses difficultés se résolvent, son unité se dégage. Il y a sans doute eu dans ces derniers siècles une dissociation trop grande entre une exégèse trop purement scientifique et une théologie trop exclusivement rationnelle. Le rapprochement de l'une et de l'autre leur est nécessaire à toutes deux. Nous n'avons pas avec cela épuisé le contenu de la théologie. Celle-ci, avons-nous dit, est l'effort de l'intelligence pour comprendre le donné révélé. Mais cet effort, s'il est une œuvre de raison, n'est pas œuvre d'une raison purement naturelle, mais d'une raison vivifiée par la grâce. La théologie est œuvre de foi. La foi, en effet, n'est pas seulement l'acte par lequel l'esprit adhère au témoignage de la parole dans son contenu mystérieux. Elle est aussi une vertu théologale, surnaturelle, qui élève l'esprit au-dessus de lui-même et le connaturalise au mystère. Elle est une nouvelle intelligence créée par l'esprit qui seule sonde les profondeurs de Dieu et qui permet de saisir ses réalités de façon obscure, mais réelle. Cette intelligence est d'abord rudimentaire, mais dans la mesure où elle s'exerce, elle devient peu à peu lumineuse. Elle est une participation à la connaissance dont Dieu se connaît lui-même, et elle est déjà ébauche de la vision. Seuls les voiles de la chair la rendent encore opaque. Développée par les dons de l'Esprit-Saint, par le don de science et le don d'intelligence, elle familiarise l'esprit avec les réalités divines, elle lui permet de les saisir dans leur réalité et d'en éprouver l'évidence. S'il est faux de réduire la théologie à la contemplation de foi et d'en éliminer l'aspect proprement rationnel, il est faux également de vouloir éliminer cet élément et de la réduire à une dialectique purement rationnelle. Beaucoup d'inutiles controverses sont venues dans la volonté de nier l'un ou l'autre de ces éléments. Ce rôle de la foi théologale dans la théologie est particulièrement marqué chez les pères de l'Église. Chez les pères grecs, depuis Clément d'Alexandrie, nous rencontrons l'idée que la foi se développe en gnose. Ils reprennent simplement, d'ailleurs, une expression paulinienne. Cette gnose n'a rien d'ésotérique. Elle n'a pas d'autre objet que la foi. Mais elle représente la foi qui devient lumineuse et qui contemple son objet. Pour Origène, la théologie apparaît comme l'intelligence du sens spirituel de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la réalité cachée, présente sous la lettre apparente. Cette conception n'était pas sans danger dans la mesure où elle risquait de méconnaître le primat du sens littéral. Mais elle exprime justement le fait que l'Écriture montre seulement, dans leur affleurement dans l'histoire du salut, les réalités cachées du Dieu éternel et de la création spirituelle, qui sont pour lui l'objet dernier de la théologie. Pour son disciple Évagre, la théologia est le sommet de l'ascension contemplative, la vision même de la Trinité. Cette conception de la théologie s'est accompagnée souvent chez les pères d'une dépréciation de la dialectique. Il reprochait aux Ariens, les technologues, l'usage des catégories d'Aristote. Saint Thomas d'Aquin a réagi contre les dangers que cette théologie trop purement contemplative pouvait présenter. Il a restauré la place du raisonnement en théologie et n'a pas hésité, malgré le scandale que ceci a suscité d'abord dans les milieux théologiques conservateurs, à utiliser les catégories d'Aristote. Et cette révolution a été libératrice, car nous l'avons dit, la raison joue, à l'intérieur de la théologie, un rôle essentiel. Mais saint Thomas était aussi un homme de prière, et sa théologie, scientifique et rationnelle, reste en même temps contemplative et théologale. Ceci n'a pas toujours été vrai de la scolastique décadente. L'abus de la dialectique, les questions oiseuses, la virtuosité de la raison donnent parfois l'impression qu'elle perd de vue le sérieux de son objet. Le père de Balthazar a eu raison de constater que, dans les temps patristiques, spéculation théologique et vie contemplative allaient de pair, et que les docteurs de l'Église étaient des saints. tandis que souvent, dans les temps modernes, les théologiens ne sont pas toujours des saints, et les saints ne sont pas toujours des théologiens. Une certaine stérilité de la théologie moderne vient avant tout de ce que la sève surnaturelle, le dynamisme de la foi vers la vision trinitaire, ne l'anime pas. La vraie science de Dieu est celle qui porte à aimer Dieu. Car après tout, si nous avons dit que la philosophie, quand elle rencontrait le mystère de Dieu, devait se convertir et s'ouvrir à l'adoration, il est juste que nous en demandions au moins autant aux théologiens. Mais celui-ci s'installe parfois dans le donné révélé comme chez lui. Il en discute comme il ferait d'autres objets. Il le traite sans cet esprit de profonde révérence que l'on serait en droit d'attendre quand il s'agit du Dieu vivant. Mais est-ce bien alors encore de Dieu qu'il parle? N'est-ce pas seulement des concepts vides qu'il amasse, car toute vraie connaissance est saisie de la réalité même des choses à travers la médiation du concept? Et comment saisirait-on la réalité de Dieu sans l'illumination de la foi? Aussi la théologie nous apparaît dans sa place parmi les voies de la connaissance de Dieu. Elle suppose l'écriture et la tradition. C'est là le point de départ total de sa démarche. Elle est effort de l'intelligence sous ses diverses formes pour comprendre et formuler ce donné que la révélation présente à l'état brut. Elle rejoint à l'autre extrémité la connaissance mystique de Dieu, dans la mesure où elle est éclairée par la foi théologale qui saisit obscurément la réalité même du mystère.